Bonjour, bienvenue dans ce deuxième cours MVA dédié à la gestion des graphismes en HTML5 avec SVG, Canvas 2D et WebGL, où ce module, cette fois-ci, vous allez voir, on va s'occuper de déterminer la manière de faire son choix entre ces différentes technologies d'affichage. Il va y avoir des scénarios de recouvrement, mais on va voir que malgré tout, il y a certaines parties qui sont assez déterminantes pour plutôt choisir Canvas ou plutôt choisir SVG. Donc je vous invite à aller voir le premier module si vous ne l'avez pas déjà vu, si vous ne connaissez pas les bases. Sinon, eh ben laissez-moi vous guider dans ce deuxième module. Alors un petit récapitulatif des grandes différences entre les deux formats. Donc je vous rappelle que la balise Canvas est une balise plutôt destinée à gérer pixel par pixel ce que vous voulez faire, donc comme un PNG dynamique si vous voulez. Donc son niveau d'abstraction est vraiment assez simple, hein, puisque c'est vous qui allez faire tout le travail. Donc c'est comme un unique élément HTML au niveau du DOM, donc c'est similaire à une image dans son comportement. Le seul moyen de modifier ce qu'il y a à l'intérieur, c'est avec votre propre script, avec du JavaScript, hein. Il n'y a pas d'autre façon de modifier le contenu du canevas. Ensuite, la manière de faire les interactions avec ce qu'il y a à l'intérieur du canevas, c'est très très granulaire, puis ça va se faire à travers la position XY de votre souris, et ça va être à vous, finalement, tout simplement de déterminer où se trouve la souris sur votre canevas, et de vous souvenir de ce que vous avez dessiné à cet endroit-là pour finalement mettre en place une interaction, sélectionner un élément, le déplacer par drag and drop. Tout ça va être de votre responsabilité. Il n'y a rien du tout prévu dans la balise canvas pour vous aider à faire ça. Ça va être l'objet, de votre code. Alors bien sûr, on pourrait utiliser des librairies comme on pourra le voir dans le troisième module. Mais si vous voulez partir de zéro, le navigateur ne vous aide en rien. Alors globalement, on a souvent des meilleures performances avec Canvas avec beaucoup d'éléments à l'écran. Donc quand il y a par exemple plus de 10 000 éléments à l'écran pour des scénarios de nuages de points par exemple en modélisation, ça peut être plus intéressant souvent d'utiliser Canvas, d'autant plus qu'on le verra à la fin de ce module, Canvas est souvent mieux matériellement accéléré que SVG. Donc SVG de l'autre côté, je vous rappelle que c'est un langage vectoriel, donc basé sur des formes et des vecteurs, il est donc indépendant de la résolution, donc ça va être son avantage principal. Par contre, le fait que tous les éléments qui vont être dessinés avec SVG dans le navigateur vont avoir une association avec le DOM. Donc ça peut prendre plus de mémoire potentiellement. L'avantage, c'est que la manière d'interagir avec ces éléments va se faire par script comme Canvas, mais également par CSS ou alors avec des événements qui vont être levés lorsque vous avez passé votre souris au survol d'un des éléments SVG, puisque l'interaction utilisateur est abstraite pour vous et gérée par le navigateur avec des éléments DOM classiques. Donc c'est vraiment très intéressant pour tout ce qui est interaction cartographique, on va le voir. Les performances sont quand même meilleures avec un nombre assez limité d'objets, hein, puisque rapidement, peu de navigateurs et de machines arrivent à encaisser beaucoup d'éléments à l'écran en SVG, donc il faudra faire attention à ce point-là. Par contre, il supporte mieux, bien entendu, la montée de résolution de par sa nature vectorielle, bien évidemment. Alors, comment faire son choix maintenant? Ce que je vous propose de voir, c'est entre Canvas et SVG, des scénarios un peu clés, un peu nets, qui permettent de différencier l'usage des deux, puis on verra à la fin des scénarios de recouvrement. Donc, le plus simple pour pouvoir découvrir tout ça, je vous propose de parcourir un ensemble de démos que j'ai choisis qui vont illustrer les meilleurs usages de la technologie SVG, selon moi, et puis vous allez voir que je pense que vous devriez être rapidement convaincu. Donc, j'ai tout compilé un ensemble de liens, de démonstrations en ligne que vous pouvez récupérer dans ce cours MVA dans le fichier zip qui est juste en dessous, associé à ce cours. Et on va commencer par voir un scénario de cartographie. Alors ici avec Bing Maps, mais avec n'importe quel moteur finalement de cartographie qui peut vous intéresser. Et là on voit, bah, c'est un usage typique de la cartographie, que je peux zoomer avec des tuiles bitmap qui vont être remontées par le serveur, mais que le tracé entre le point A et le point B ici, entre Microsoft France et la Tour Eiffel, c'est bien un schéma vectoriel qui est utilisé, puisque ça va permettre de zoomer, dézoomer sans avoir de problème lié à la résolution et donc bien d'utiliser un contenu de type vectoriel. Alors pour l'illustrer, pour bien le vérifier, ben on accroche le navigateur ici sur la gauche, on remet la cartographie en place, j'appuie sur la touche F12 pour avoir la console de développement et on va aller faire un petit tour là-dedans. Alors le plus simple pour trouver la balise SVG, c'est de la chercher. Voilà, vous la trouvez rapidement ici. Et vous voyez bien ici qu'on a un pass qui dessine, hein, le chemin du point A au point B et qu'on peut s'amuser éventuellement à faire un truc qui fait n'importe quoi. Alors je vais prendre un point au hasard par exemple et je vais lui faire faire un gros détour ici. Hop, vous voyez qu'il y a un trait là en bas à gauche qui est parti dans l'espace, et c'est parce que j'ai modifié le pass SVG. Donc là, un scénario typique d'usage de SVG, c'est la cartographie qui permet tout simplement d'afficher ça sur n'importe quel type d'écran, un smartphone, une tablette, un écran géant. Vous avez un contenu vectoriel, ça s'adapte parfaitement à la résolution et ça ne coûte pas très cher en performance parce que c'est un contenu tout à fait statique. Autre type d'usage, ça va être cette fois-ci sur plutôt des gros graphes. Alors j'avais vu en introduction le schéma de type santé, où on voyait les poumons, tout le corps dans la première vidéo. Là j'en ai choisi un autre, c'est un diagramme de l'organisation chez nous de Microsoft Dynamics. Et donc vous voyez que ici je peux avoir un niveau de détail très très bon, je peux zoomer à l'intérieur de l'organisation ici pour voir des diagrammes sans aucun problème de perte de définition, et à n'importe quel moment je peux remonter en arrière sur un zoom out pour voir par exemple l'ensemble de l'organisation d'un seul coup d'œil. Alors c'est pas forcément lisible, c'est pour ça que c'est pratique pour zoomer, et ça va dépendre aussi de la qualité de l'écran que vous aurez, mais on peut tout à fait imaginer du coup cette fois-ci avoir ce diagramme dans lequel on va zoomer dans les parties qui nous intéressent, avec un fichier unique qui est chargé en SVG, qui est relativement léger, hein, le SVG pour afficher ce genre de choses. Alors on imagine une bitmap ici qui a dû faire, je sais pas moi, 5000 par 5000, ça aurait pris énormément de bande passante et finalement on aurait perdu au bout d'un moment en résolution. Là on garde un format d'excellente qualité, et en plus on peut imaginer d'imprimer un poster par exemple de votre organisation pour ceux que ça intéresse. Donc il y a pas mal de scénarios intéressants liés à SVG par son côté vectoriel. Alors bien sûr, dans les scénarios classiques qui sont utilisés sur Internet sont le chargement d'images, et souvent on sous-estime l'intérêt de SVG pour un contenu de type image. Alors ça peut être une image quelconque, un logo que vous mettez sur votre page web, mais on peut l'imaginer aussi en image de background. Lorsque vous utilisez le background d'image par CSS, vous pouvez très bien imaginer de mettre du SVG, soit en linkant vers un fichier SVG, soit en l'encodant dans une data URI directement. Et là, bien sûr, on voit l'exemple là sur Wikipédia de la perte de résolution qui est illustrée par ce schéma, où le même S qui apparaît dans une résolution donnée paraît presque similaire entre la version bitmap rasterisée et la version vectorielle. Mais si j'ouvre ce fichier SVG, on voit bien que si je zoome de manière très très forte ici sur la partie droite, j'ai toujours des courbes qui sont parfaites, hein, puisque c'est mathématiquement dessiné, tandis que de l'autre côté, je vais voir au fur et à mesure des énormes pixels apparaître, puisque c'est limité par la résolution. Donc pensez-y également, hein, puisque à l'heure des périphériques qui ont de plus en plus de résolution, on a des smartphones avec des dalles à très haute densité, que ce soit chez Windows Phone, sur les iPhones ou iPad Retina, le contenu SVG s'adapte nettement mieux qu'un contenu bitmap, et est souvent plus léger en plus à être véhiculé sur le réseau, alors qu'aujourd'hui quasiment tous les navigateurs sont compatibles, il n'y a plus de raison de s'en priver, sauf si vous avez un vieux IE8 qui traîne. Dans ces cas-là, oui, il faudra penser à un fallback bitmap. Donc un très bon scénario. Alors, je me suis amusé sur mon blog à montrer une illustration des deux technologies, puisqu'on peut imaginer, vous voyez, une cartographie ici des États-Unis, où je peux passer ma souris sur chacun des États, et par CSS, comme on l'avait vu dans le premier module, eh ben, j'éclaire l'État sur lequel je suis en train de survoler la souris, ou sur lequel je suis en train de m'intéresser. Et je me suis dit, est-ce que je pourrais pas faire finalement la même chose en Canvas, puisque rien ne vous empêche finalement d'avoir les instructions de dessin et de le faire avec les primitives Canvas. Donc je me suis amusé à regarder la spécification SVG du W3C, et à chaque fois que je passe la souris, vous voyez sur un des états, ça me donne le pass en SVG équivalent, mais également le code Canvas qui a dû être généré pour obtenir la même chose, puisque rien n'empêche de dire que je vais prendre un canvas, et quelle que soit la résolution du canvas, comme je le dessine de manière mathématique également, je peux être pseudo-vectoriel si vous voulez. La différence là, c'est que peut-être que déjà ça va être très très chiant à générer en canvas par rapport à du SVG, vous avez des outils pour vous aider, mais en plus en termes de quantité de JavaScript nécessaire pour dessiner finalement dans le canvas, vous allez peut-être avoir un code JavaScript plus gros, et en plus, on va le voir, SVG peut être couplé avec une technologie d'assistance pour l'accessibilité, ce que vous ne pourrez pas faire avec le Canvas. Donc c'est pas parce qu'on peut faire la même chose finalement avec les deux technologies qu'il n'y a pas un intérêt de garder par exemple dans ce cas-là SVG. Donc c'est un exemple que vous retrouvez sur mon blog, qui fait partie des liens partagés dans ce cours MVA, mais également vous pouvez tester ce lien directement. Alors une librairie dont je vous parlais dans le premier cours que j'affectionne particulièrement qui est iCharts, et on va rester sur cette démo ici qui est pas mal, donc on va revenir dessus, hop. Cette démo qui affiche à nouveau une carte du monde où je peux passer ma souris sur chacun des éléments, vous voyez, il va m'afficher la densité de la population. Je peux zoomer à nouveau dans le contenu à la molette de manière vectorielle et on voit pas mal de possibilités sur cette librairie iChart qu'on verra dans le troisième module rapidement au niveau de son usage. Elle est vraiment très très chouette et ça j'imagine que si vous êtes des applications relativement orientées business, données, financières, peu importe sur la géographie, sur ce genre de choses, cette librairie est vraiment très très pratique et on verra qu'il y en a d'autres librairies qui sont vraiment très très bien et en plus celle-là supporte ce qu'on appelle un downgrading sur les anciennes versions d'Internet Explorer. Donc, charting, en général, c'est vraiment SVG qui est le plus adapté que Canvas, même s'il y a certains scénarios de Canvas qui sont pratiques aussi pour afficher des charts très très complexes avec beaucoup de nuages de points, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors sur l'accessibilité, là il n'y a pas photo, hein. Canvas est tout simplement inaccessible pour les lecteurs d'écran, là où SVG peut être couplé à ce qu'on appelle de l'AIRIA. Donc si je regarde ici ce document SVG et que je vais voir par exemple le contenu de ce cercle, ce qu'on peut voir c'est que j'ai positionné un cercle avec un rôle AIRIA de type checkbox qui pour l'instant n'est pas coché, donc il est sur false. Ça veut dire que, tout simplement qu'un lecteur d'écran va pouvoir aller lire le contenu ici de mon interface malgré le fait qu'elle soit vectorielle en SVG. Et donc je vais pouvoir facilement avec un lecteur d'écran aller demander l'analyse du contenu et comme on va le voir dans la démonstration suivante. Alors je vais basculer d'Internet Explorer à Firefox qui se trouve mieux réagir à cette démo que IE sur l'accessibilité. Donc j'ouvre Firefox, qui est souvent réputé comme un excellent navigateur pour l'accessibilité, au même titre d'Internet Explorer d'ailleurs, qui est bien plus, tous les deux bien plus accessibles par exemple que Chrome. Si vous avez besoin de faire des tests, je vous invite à plutôt tester IE et Firefox que Chrome, souvent sur l'accessibilité. Et je vais charger un programme qui s'appelle NVDA, qui est un lecteur d'écran gratuit. Voilà, il faut juste que je sache correctement le taper. Hop, NVDA.
Welcome to NVDA, welcome to NVDA. Most commands for controlling NVDA require you to hold down the NVDA key while press OK. SVG and Arium SVG first SVG circle checkbox not checked, checked.
Et vous voyez, il vient de me dire que j'ai mis en place la checkbox sur check. Alors, c'est très très verbeux, hein, c'est un lecteur d'écran, donc si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être surprenant. Mais vous allez voir, je vais passer ma souris sur l'élément suivant et il va m'indiquer des informations auditives dessus.
Second SVG circle checkbox. SVG circle checkbox.
Il me dit deuxième bouton, troisième bouton, et si maintenant
SVG checkbox, SVG checkbox buttons.
je vais passer sur le premier, je vais le décocher.
First SVG circle checkbox. Not checked. Checked.
Vous voyez, il fait check.
Not checked.
Not
Checked.
checked. Automatiquement, donc en fonction des actions souris que je fais, même sur une interface vectorielle, le lecteur d'écran est capable de donner l'information auditive à quelqu'un qui serait malvoyant. Donc extrêmement pratique. Pensez-y si vous devez faire des interfaces tout simplement pour le web, pour qu'elles soient accessibles. C'est très très simple de coupler des attributs ARIA aux éléments SVG pour le rendre accessible. Bon, je vais couper le lecteur d'écran, donc il va parler un petit peu encore. Et voilà, c'est coupé. Donc on va revenir à la présentation, hop, et faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc, les scénarios clés pour SVG, tout ce qui est documents vectoriels, alors j'ai mis entre guillemets complexes, hein, c'est-à-dire que si vous avez besoin de faire des documents assez simples, rien ne vous empêche d'utiliser Canvas, mais l'avantage de SVG, c'est que d'une part, vous allez pouvoir utiliser des outils pour vérifier tout ça, mais en plus, vous allez pouvoir être indépendant de la résolution avec un format qui est relativement léger, même si c'est du XML, et ça se compresse bien de toute façon avec JZIP activé sur les serveurs aujourd'hui. Tout ce qui est rapport, cartographie, graphique, très pratique. J'ai mis que ça soulage le serveur pour une raison assez simple, c'est que, imaginons les mêmes scénarios interactifs il y a quelques années, il aurait fallu potentiellement finalement générer les images côté serveur et en fonction des interactions, de l'utilisateur côté client, demander au serveur d'aller interroger la base de données, générer le rapport équivalent et le renvoyer côté client. Bah là, vous envoyez tout simplement le jeu de données côté client et par JavaScript, vous allez rajouter de l'interaction sur la cartographie ou ou les rapports en SVG. Et donc c'est pour ça que j'ai mis qu'il y a une interactivité possible avec un ping-pong entre le serveur et de l'Ajax, beaucoup plus léger que des allers-retours complets avec de l'image. L'utilisation est bien plus générique que Canvas, hein, où on peut imaginer d'utiliser le couplet avec CSS, comme on l'avait vu dans le premier module, rajouter une image de fond sur votre web, sur votre site web, sur un blog, sur n'importe quoi qui serait en SVG, et du coup bah, qui aurait aucune perte de résolution, quelles que soient les périphériques et leur résolution. Les posters, comme on l'a vu un peu avec le diagramme Dynamics, qu'on pourrait imprimer, et à nouveau, on peut tout à fait envisager d'animer tous ces éléments qui sont des éléments du DOM avec des librairies JavaScript classiques. Pour le jeu vidéo, on verra un petit peu à la fin un exemple tout simple de jeu vidéo. Il existe des gens qui font des jeux en vidéo en SVG. C'est pas le scénario privilégié malgré tout, hein. C'est quand même beaucoup Canvas qu'on va le voir qui est utilisé pour faire du jeu vidéo. Et pour finir, on a un meilleur référencement naturel par les moteurs de recherche de SVG, puisque dans une baline Canvas, si vous écrivez du texte, personne ne le saura jamais, hein, à part vous visuellement. Un moteur de recherche ou quelqu'un qui est malvoyant ne le verra pas. Tandis que dans SVG, bah, il y a une primitive texte qui peut être indexée par les moteurs de recherche. Et puis on peut le coupler, donc comme je vous l'ai montré, avec la technologie ARIA pour l'accessibilité. Donc pas mal de points positifs pour SVG par rapport à Canvas, gardez-les en tête. Maintenant, faisons le même exercice avec la balise Canvas. Et là, on va voir que les usages sont relativement différents. Donc, toujours des liens que vous pouvez récupérer à la fin du cours. Et on va voir un scénario qui est bête et méchant, qui est un ray tracer, qui ne sert pas à grand-chose. Hein, j'avouerai pour le faire en JavaScript, hein, ce n'est pas l'endroit où JavaScript est le meilleur. Mais ça vous montre bien que si j'ai envie de faire ce que je veux dans cet élément-là, de cette zone de 500 pixels par 500 pixels, donc je suis en train de lancer des calculs par lancer de rayon, où le principe c'est un ensemble d'équations mathématiques tout simplement qui vont simuler la lumière, les réfractions, réflexions, les ondes portées, tout ce genre de choses merveilleuses que l'on peut faire en 3D. Et donc on peut le faire dans un canvas en HTML5 avec JavaScript, rien ne nous l'empêche, puisqu'on dessine chacun des pixels et on décide à travers l'algorithme, les équations que l'on souhaite, comment calculer la couleur de chacun des pixels dans cette démo de Ray Tracer. Je vous l'avais montré également. La démo de Mandelbrot, donc avec les fractales. Alors ça, on peut l'imaginer à nouveau dans des scénarios intéressants de vous voulez partager des travaux de recherche avec des algorithmes particuliers, avec des collègues ou finalement avec des étudiants ou pour faire du contenu de formation. Rien ne vous empêche de le partager aujourd'hui dans une page web avec un navigateur HTML5, puisqu'on a un contenu directement interactif ici à la souris. Sans avoir besoin d'installer le plugin quoi que ce soit, ça marche partout, hein. On peut même l'imaginer au touch pour faire des dessins. Et donc là, c'est vraiment un usage très pratique du canvas. Dès que vous avez besoin de dessiner de manière très précise chacun des pixels, Canvas est vraiment le maître absolu dans ce domaine-là. Alors pour des usages plus rigolos, il y a cet usage assez amusant. Donc là, on a deux vidéos, une à gauche et une à droite. Et on va voir qu'on peut tout à fait faire des effets spéciaux, entre guillemets, à l'aide de la balise Canvas. Donc là, je n'ai pas d'usage de WebGL. Hein. Depuis tout à l'heure, dans les démonstrations, on voit que Canvas 2D. Ce qu'on va faire là, c'est que comme on l'avait vu dans la première partie du cours, on peut manipuler la vidéo directement dans le Canvas. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à prendre la vidéo numéro 1. Et enlever dans la vidéo numéro 2 le fond vert et pour mettre la vidéo numéro 1 dans le fond vert. Et donc si je fais start, vous voyez, ça donne ce genre de choses. Et je peux m'amuser à jouer la première vidéo en même temps. Faire une pause. Et donc ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des... Alors, l'algorithme n'est peut-être pas parfait d'incrustation à la Star Wars, mais on voit bien le principe de fonctionnement de la manipulation pixel par pixel pour faire, ici on pourrait imaginer un traitement sur une vidéo en temps réel. Alors vaut mieux le faire pour le coup si vous avez un navigateur compatible WebGL parce que vous allez pouvoir sous-traiter ce traitement-là au GPU. Et là pour le coup faire frame par frame en temps réel sur le CPU c'est pas une bonne idée. Mais là on voit que ça marche sur des petites vidéos. On peut surtout imaginer une application où vous drag and dropez par exemple une photo dans le navigateur avant de l'envoyer vers un serveur de stockage. Si vous voulez faire un petit traitement photo avant de l'envoyer vers le serveur. Corriger le contraste, enlever les yeux rouges, faire pas mal d'opérations dessus, bah vous pouvez le faire entièrement dans le navigateur aujourd'hui, c'est vraiment très simple. Le moteur JavaScript est assez puissant pour l'encaisser, les processeurs également, donc rien ne vous empêche de le faire directement dans une page web. Assez rigolo, ça donne pas mal d'idées. Et pour terminer, il y a cette démo sur du canvas 2D, assez simple, avant de passer à des trucs un peu plus mise en production sur d'autres sites, c'est que tout simplement, bah, comme je vous le dis à nouveau, vous avez accès à chacun des pixels, donc à chacune des couleurs de chacun des pixels en rouge, vert, bleu, comme on le voit ici. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est s'amuser à, je sais pas, retirer le canal de vert ici pour faire une application d'un traitement d'image. Ici, lorsque je clique sur le bouton gauche, je retire la couleur en question. Donc, par exemple, si je prends le rose ici, je clique dessus, bon, il reste plus grand-chose, donc je recharge l'image. Si je fais bouton droit sur le blanc, hop, ici, ou sur la couleur bleue, ça retire la couleur pour la rendre transparente et je peux convertir tout ça en noir et blanc. On peut le voir effectivement. Regardez les valeurs de rouge, vert, bleu, elles sont toutes identiques maintenant puisque je suis en niveau de noir et blanc. Donc, ce que je vous disais, les traitements d'image sont assez simples à réaliser grâce à la balise Canvas et un petit peu de JavaScript. Regardons des choses un peu plus intéressantes mises en production. Donc vous allez sur skybeautiful.com et c'est un exemple assez parlant de l'usage de Canvas où je peux me déplacer sur une cartographie du ciel et voir certaines constellations. Vous voyez, quand je passe ma souris, il les éclaire. Alors on aurait pu peut-être imaginer effectivement de faire ça en partie à travers SVG, sauf que là, vous voyez, il y a des effets légers d'éclairage qui sont plus simples à mettre en œuvre lorsqu'on fait du canvas, tout ce qui est justement choisir de manière très précise la manière dont chacun des pixels se colorise. Et puis là, on voit qu'il y a quand même pas mal de points dessinés à l'écran. Et donc, comme je vous le disais, en SVG, si jamais chacun des éléments est un point SVG ou et chacun de ces différentes passes devient un pass SVG, vous allez charger pas mal le DOM en mémoire, tandis que là finalement c'est relativement contraint en termes d'usage mémoire et en termes de performance. Souvent on a des meilleures performances sur des scrollings comme ça en canvas que sur du SVG, encore plus dans les différents navigateurs. IE se trouve être un excellent navigateur pour ce genre de choses et les autres sont pas toujours forcément excellents dans ce domaine-là. Donc si on veut quelque chose qui tourne partout, vaut mieux prendre Canvas qui lui pour le coup est très bien géré par tous les navigateurs récents et modernes. Donc meilleur scénario Canvas dans ce cas-là. Alors passons un peu à la 3D. On va pas y passer énormément de temps non plus, mais ça va vous donner vraiment dans la continuité d'usage de Canvas. Là on voit la possibilité de visualiser des données en 3D de manière bien plus intéressante et interactive que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et donc l'idée c'est d'afficher les différents vols de United Airlines là, que j'ai sélectionné et le voir sur la planète. Et si on prend par exemple Air France, donc je vais désélectionner United Airlines et je vais plutôt prendre Air France. On va voir que ça part bien de la France vers les différents pays. Et de l'autre côté, si je vais prendre par exemple on va prendre Japan Airlines, on va bien voir qu'il va dessiner en partant du Japon et voir les différentes lignes qui partent d'un pays à l'autre. Donc là, c'est vraiment une démo qui me plaisait bien en termes d'interaction, mais on peut imaginer vraiment des nuages de points en 3D sur lesquels on va pouvoir tourner, sur tout ce qui est géologie, sur l'analyse sismique. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire, qu'on peut imaginer maintenant directement dans le navigateur. Moi, je sais qu'il y a des clients qui travaillent dessus aussi dans tout ce qui est pétrochimie, par exemple, ils utilisent ce genre de choses. Donc gardez en tête que cette fois-ci, Canvas reste la balise utilisée. On bascule en WebGL pour une raison simple, c'est qu'on a un affichage en 3D. Et donc, WebGL est surtout utilisé ici pour accéder au GPU, augmenter les performances. Et on a une expérience très très agréable dans le navigateur, à nouveau, que vous pouvez facilement diffuser sur le web sans aucun souci, ou dans un scénario d'intranet, bien sûr, si vous ne voulez pas diffuser cette application de manière publique. Pour finir, mon moteur chéri, moteur Babylon fait par notre équipe préférée en France et puis avec David Catu qui est aux États-Unis. Et donc si on va sur le site web, donc babylonjs.com, ce que vous allez voir ici, c'est, je vais vous montrer cette démo Hill Valley, que vous pouvez aller charger également de votre côté, pour montrer qu'on peut avoir des interactions maintenant très très immersives hein, grâce à ce moteur 3D qui est le nôtre. Donc là on voit la scène de Retour vers le futur qui a été entièrement refaite à l'aide de Michel, notre designer également, qui a retravaillé la scène pour qu'elle tourne bien dans le navigateur, puisqu'il y a du boulot quand même à faire sur les textures, sur la géométrie. Mais on voit que ce genre d'expérience, bah c'est, on peut envisager maintenant des jeux de très très bonne qualité dans le navigateur, des jeux, mais on peut imaginer aussi un scénario immersif où je me balade dans un musée pour pouvoir voir une visite virtuelle d'un musée, plein plein de choses avec le moteur 3D Babylon, JS comme il en existe un autre qui est très connu, qui est FreeJS, et on verra comment utiliser ces moteurs dans le troisième module. Retournons à la présentation. Et faisons un petit résumé. Donc Canva, ses scénarios clés, je pense que j'ai pas mal insisté, vous aurez compris, je l'espère. Donc la manipulation de pixels, donc on a vu des exemples comme du ray tracing, du traitement d'image. Alors je mets avec GPU éventuellement, je voulais pas montrer, mais rien n'empêche de faire les traitements d'image sur des flous, sur des effets quelconques, un petit peu compliqués à travers du GPU, ce qui permettra d'avoir des meilleurs temps de réponse. L'affichage de données en temps réel sur des animations mathématiques, il existe des scénarios de météo, des scènes très très complexes où SVG aurait du mal à encaisser finalement énormément d'éléments. Canvas est nettement meilleur dans ce domaine. Le remplacement de pixels, donc à vous les effets à la Star Wars. Et des jeux vidéo, donc 2D, qui sont souvent réalisés en Canvas. Et 3D qui peuvent être uniquement faits pour le coup à l'aide de la balise Canvas et de WebGL, puisque en SVG, si vous pouvez simuler de la 3D, mais les performances vont très très vite tomber, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Alors bien sûr, rien n'empêche d'utiliser les deux technologies. Là, on parle de HTML5, hein. Donc ça reste du HTML. Si vous avez envie d'avoir un canvas et par-dessus une interface vectorielle en SVG, aucun souci. Donc c'est vraiment quelque chose d'ailleurs que je conseille fréquemment aux gens qui me disent bah, comment je fais pour mon jeu ou mon application qui est dessinée dans le canvas pour gérer toute l'interface. Bah, faites-le en SVG ou en HTML classique, puisque là, pour le coup, le navigateur bosse pour vous pour les interactions souris et avec l'utilisateur, donc ne recodez pas ce que fait très bien le navigateur. Canvas, malgré tout, est souvent un choix meilleur pour la performance pure pour la quasi-totalité des navigateurs. Donc gardez ça en tête, si vous avez besoin de beaucoup de performance, à rafraîchir beaucoup de données en temps réel, c'est souvent plutôt Canvas qui s'en sort le mieux. Et ensuite, sur les jeux vidéo 2D, ben, ça va vraiment dépendre de vos habitudes. Donc souvent, c'est Canvas parce que les développeurs viennent d'un monde où il y a une boucle de rendu, un mode immédiat à la Xena pour ceux qui ont connu, ou d'autres technologies type DirectX. Ils se retrouvent assez à l'aise dans Canvas et WebGL. SVG, pour le coup, est très très proche d'un domaine DOM classique. Par contre, un nombre d'opérations, un coût mémoire supérieur. Mais on peut faire des jeux avec SVG, j'en connais certains, et on en verra un tout à l'heure en peu de temps. Et justement, un exemple avec un jeu très très simple, donc vous allez pouvoir récupérer le code source à nouveau de la page dans le fichier zip. On va voir le même jeu, strictement le même jeu, réalisé d'abord en Canvas puis en SVG. Donc je vais charger la version Canvas. Vous allez voir, le jeu est énorme, hein. Et l'idée, c'est juste de déplacer cette petite raquette pour faire rebondir la balle sur les différents murs. Et si jamais je me plante, j'ai perdu. Là, vous devriez être épaté par la puissance du code. Regardons le code source. Alors, le code source est assez simple. Il y a au niveau HTML une balise canvas, ici, qui s'appelle Gameboard et qui fait 300 pixels par 300 pixels. Donc voilà. Comme vous vous souvenez, dans le module 1, c'est tout ce qu'il faut faire au niveau canvas pour la déclaration de l'élément dans le DOM. Et tout le reste se passe au niveau du code JavaScript. On a la position au démarrage de la balle. Et on a notre boucle de dessin qui va se lancer ici, qui toutes les 16 millisecondes, alors ça c'est le monde parfait, hein, c'est les 60 images secondes, on va rappeler un code pour gérer finalement les interactions utilisateurs et vérifier si la logique du jeu a toujours lieu d'être, si on n'a pas perdu entre-temps. À noter pour les pros qui connaissent un peu déjà JavaScript, donc vaut mieux utiliser aujourd'hui Request Animation Frame, qui commence à être supporté à partir d'Internet Explorer 10. Sinon, il faut utiliser ce genre de boucle de rappel si vous utilisez Internet Explorer 9. Et ensuite, ce qu'on fait, bah, on efface l'écran, on choisit la couleur de remplissage et on dessine finalement la petite balle, le paddle de navigation, donc qui est juste finalement un rectangle. On bouge les différentes positions de la balle, on vérifie si on doit rebondir à gauche ou à droite. Donc ça, c'est juste les tests de collision, comme on appelle ça dans les logiques de jeu. Et à la fin, bien sûr, eh ben, il faut vérifier sur quelle touche on est en train d'appuyer. Et si je suis en train d'aller vers la gauche, eh ben, je déplace en X vers la gauche, en négatif, et sinon j'ajoute des valeurs pour aller vers la droite. Et puis je teste que je suis pas arrivé sur les bords de l'écran. Vous voyez, un jeu très très simple, réalisable en Canvas. Et on va voir que si jamais je charge le même jeu, donc on va fermer cette fenêtre, mais cette fois-ci en SVG, hop, je mets en plein écran, voilà, je vais m'en sortir. Donc c'est exactement le même jeu. Alors visuellement, vous allez me dire, il n'y a aucune différence, oui, sauf qu'il y en a une qui est vectoriel et pas l'autre, mais là sur cette résolution ça se voit pas du tout. Et si je vais à nouveau regarder le code source, la seule différence c'est que mes éléments SVG cette fois-ci je les ai déclarés dans le DOM, vous voyez, et je vais ensuite leur donner un ID qu'on voit. Donc il y en a un qui est la balle, le paddle, et le reste finalement de mon écran. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'au démarrage du jeu, je vais essayer de récupérer différents éléments et je vais bouger sur des attributs. Regardez, c'est très rigolo, c'est que si je prends ma balle par exemple, je vais aller mettre en place un attribut ici, X, directement sur l'élément SVG, et qui va tout simplement, par SVG, décaler l'élément vers la gauche ou la droite. Et donc au lieu de finalement redessiner en canvas toutes les 16 millisecondes mon rectangle, là tout ce que j'ai besoin de faire c'est de déplacer dans le DOM où se trouve mon élément SVG pour que le navigateur le redessine lui-même. Donc c'est deux approches différentes. J'ai malgré tout une boucle qui est rappelée toutes les 16 millisecondes. Ça c'est pour gérer les interactions du clavier, de tester finalement si la balle n'est pas sortie de la zone de l'écran ou si j'ai perdu. Mais on voit deux approches quand même légèrement différentes pour un résultat qui est identique. Donc gardez ça en tête. Alors un exemple très simple hein, à nouveau, mais rien ne vous empêche de faire exactement la même chose en SVG, en Canvas. Et donc ça va juste dépendre de là où vous trouvez le plus à l'aise ou éventuellement des tests de performance que vous pourrez faire. Et on enchaîne très bien avec les problèmes de performance. Donc là, on voit un exemple qui sort d'une étude qui a été faite en interne chez Microsoft, où on voit en fonction de la taille de l'écran que SVG reste relativement, enfin, assez flat, hein. Donc on prend de plus en plus de temps de rendu malgré tout, c'est assez logique puisque plus vous augmentez la taille de l'écran, plus il y a quand même des pixels à dessiner, mais SVG l'encaisse pas mal. Là où Canvas finalement va falloir rafraîchir tout le temps tous les pixels à l'écran, donc il y a peut-être moins de possibilités d'optimisation du navigateur. Et donc là on voit que ça augmente pas mal. Inversement sur le nombre d'objets, et je dirais c'est assez logique, plus vous allez voir d'objets en SVG, plus ça va coûter cher au niveau des opérations DOM qui sont réputées comme ne pas être, ne, qui ne sont pas très rapides par nature. Et puis il va surtout falloir tout simplement parcourir tout l'arbre pour le redessiner. Et donc ça va coûter de plus en plus cher en mémoire. Donc ça coûte cher SVG si vous avez beaucoup beaucoup d'éléments en temps de rendu. Là où Canvas finalement que je rafraîchis, alors si j'ai pas beaucoup de tests JavaScript à faire, si je rafraîchis 1000 pixels à l'écran, si dans les 5000 pixels j'ai un objet ou si j'en ai 10 000, ça lui importe très peu. La baleine canvas, ça va pas changer grand-chose dans l'absolu. Donc c'est assez logique aussi que le nombre d'objets a moins d'impact sur les performances dans Canvas par rapport à SVG. Et donc pour le voir, on va avoir une petite démonstration pour vous illustrer tout ça, que vous avez également en lien à nouveau dans ce cours MVA. Donc ce que ça fait là, c'est ces 1000 petites balles en SVG qui sont chargées. Et on voit ici, alors je vais enlever ma tête pour que vous puissiez me voir, mais on a 36 FPS ici dans mon navigateur, dans Internet Explorer. Alors ça varie, hein. On va dire dans les 30 FPS avec 1000 balles à l'aide de la balise Canvas, non SVG, pardon. Et si maintenant je bascule sur Canvas, cette fois-ci, je suis un peu au-dessus, je suis dans les 42, ça monte à des fois à 43 images secondes, comme on le voit ici. Donc j'ai un peu plus de performance de l'ordre de 50% dans ce cas précis. Alors bien sûr, il va falloir faire les tests sur les différents navigateurs, mais si je refais le test par exemple dans Firefox, donc je vais charger Firefox, alors j'ai souvenir qu'il s'en sortait nettement mieux sur Canvas que sur SVG. Donc là, c'est Canvas. Donc on a un taux de rafraîchissement une fois qu'il a s'initialisé de. Bon, c'est à peu près la même chose qu'Internet Explorer, hein. On est dans les 40, 42, 43. Donc assez cohérent. Donc vous voyez que là, vous pouvez vous dire sereinement, bah je peu importe finalement le navigateur que j'utilise, j'aurai les mêmes performances. Par contre SVG, donc je ne sais pas si ça a été amélioré. Voilà, on a un peu moins. Alors, ils sont pas mal améliorés. Et ceci, Firefox avait pas mal de problèmes sur SVG, donc ils ont dû pas mal bosser le moteur de rendu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais là, on est quand même même problème qu'avec IE finalement, donc un peu moins rapide qu'IE, mais peu ou prou les mêmes performances. on a une différence sensible. Et j'ai souvenir que Chrome était meilleur que les deux, IE et Firefox, sur tout ce qui est SVG, sur ce chargeur de rendu. Donc ce que je voulais vous dire, c'est surtout faites des tests dans tous les navigateurs, testez les performances, et puis bah, vous allez pouvoir peut-être déterminer la technologie qui vous convient le mieux. Je vais remettre ma tête, parce que je suis sûr que vous adorez me voir. Hop, donc on va repasser sur la présentation. Et on va essayer de faire un petit bilan en résumé, hein. Donc vous voyez les deux gradients entre Canvas et SVG. SVG donc à privilégier pour tout ce qui est finalement statique. Donc soit c'est une image, un logo, un arrière-plan, faites-le en SVG. Franchement, il n'y a plus raison de se priver. Tout ce qui est document de haute qualité pour pouvoir éventuellement l'imprimer, la cartographie, SVG vraiment nettement meilleur. Tout ce qui est interaction avec une carte interactive, SVG reste meilleur que Canvas pour une simple raison, c'est que vous l'avez vu, l'interaction avec le DOM et le navigateur est fortement facilitée. Sur le jeu vidéo 2D, bon, j'aurais tendance à dire que c'est entre les deux, mais pour être honnête, la quasi-totalité des moteurs de jeu aujourd'hui sont basés sur Canvas. Donc on va dire que techniquement, on pourrait faire imaginer des jeux à la fois en SVG en Canvas, sauf qu'on va le voir dans le troisième module, la plupart des jeux sont quand même basés sur des sprites, par exemple, un petit peu old school, et là, Canvas est nettement plus prêt à afficher ce genre de choses que SVG. Ensuite, il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas remplacer Canvas, comme la 3D temps réel, hein, comme on l'a vu avec des visualisations de données ou du jeu vidéo temps réel, des scènes avec complexes avec beaucoup d'objets, beaucoup de points à dessiner, et tout ce qui est manipulation des pixels, hein, donc on ne peut pas le faire en SVG, on n'a pas de traitement, même si on a des filtres qui existent en SVG, Canvas reste le roi dans ce domaine. Donc ça conclut cette présentation. Donc vous allez pouvoir voir dans le troisième module certaines librairies en action et comment les utiliser très très rapidement. Alors ça n'a pas vraiment un cours détaillé sur ces librairies, mais ça pourra vous montrer à quel point c'est simple d'utiliser ces librairies pour vous aider dans vos propres projets. Donc je vous dis à tout de suite dans le module numéro 3. Merci.